messieurs et dames, on commence.
Nous allons voir, Be'ezrat Hashem, les patriarches en tant que principe du monde. Étonné que nos parachiotes, les lectures de la paracha que nous allons voir ces semaines, vont rapporter donc la vie et les grandes actions des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et contrairement à ce qu'on peut penser, bien sûr, la Torah n'a pas comme but seulement de nous rapporter une éthique, à savoir une manière de se comporter à propos de ces grands maîtres, de ces patriarches, les pères de la nation. Et c'est aussi les pères du monde, les pères de tous les croyants, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais au fait, les patriarches définissent les principes même du monde, les principes même de l'univers. Je commençais par un midrash très connu. Voici les engendrements des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Et le midrash dit Atikra Behibaream et la Be'Avraham. Ne dis pas lorsqu'ils furent créés, Behibaream, mais lis plutôt Be'Avraham. À savoir, lorsque Avraham, c'est quoi lorsque Avraham? Voici les engendrements des cieux et de la terre par Avraham. Comme si Avraham était le principe géniteur même des cieux et de la terre. Bien sûr, vous allez dire, c'est un jeu de mots. Pour le Midrash, Be'Avraham, Be'Hibareham, ce sont les mêmes lettres. Les mêmes lettres qui forment Be'Hibareham lorsqu'ils furent créés, forment aussi Be'Avraham avec Avraham. Donc Avraham, Be'Hibareham, lorsqu'ils furent créés, on peut dire par le mérite d'Avraham, pour une explication simple du Midrash, mais en vérité, selon la Kabbalah, on va voir, d'après le Ramchal, dans un texte de Hadith Bamarom, à la fin de son de Hadith Bamarom, Chelek Aleph, dans sa première partie, le Ramchal parle réellement de Avraham comme principe géniteur lui-même. Alors, pour commencer avec quelque chose de simple, ce que tout le monde rapporte, Avraham correspond au chesed, au principe du chesed, de la bonté. Yitzhak plutôt à la gvoura, à la rigueur. Jacob à Tiferet, donc la beauté. Pour ne retenir que ces trois principes ou trois concepts, on va dire que c'est beaucoup plus profond que cela. Mais nous allons commencer, comme j'ai dit, par un enseignement qui est rapporté un peu et dans le Zohar et par tous les commentateurs aussi, d'identifier Avraham avec le Chesed. J'ai dit, c'est trop simple, mais en fait c'est beaucoup plus profond que cela. Mais pourquoi Avraham s'identifie au Chesed? Est-ce parce qu'il a une tente? Une tente qui est ouverte aux quatre côtés, à savoir, il a une auberge, un hôtel en plein désert, hôtel Avraham, Echel Avraham, et tout celui qui passe, il voit, ici on mange gratos, on rentre, on mange, on boit, on dort, et on se va. Achila, Shtia, Lina, Echel. Donc on mange, on boit, et on dort, et on s'en va. Et voilà, donc Avraham, bien sûr, tout celui qui est entré, lui dit, lavez-vous les pieds, comme on va le voir dans la paracha. Pourquoi les pieds? Parce qu'il y a la Bodhazara qui est collée d'Abraham Avinu. Avraham donc demande de retirer la poussière de leurs pieds, parce que la poussière, ils se prosternent à leur poussière. Au fait, se laver les pieds, c'est se laver de la Vodazara, de l'idolâtrie. Mais de cette manière, Avraham invite tout le monde pour venir manger, mais en venant manger, il enseignait aussi les principes de la foi. Mais c'était un homme de chesed, même pour un idolâtre, puisque au fait, même les idolâtres étaient invités chez lui. Ils avaient une place chez lui, même les gens les plus éloignés du divin. Ça, c'est Avraham. Yitzhak, par contre, qui correspond au principe de la rigueur, là, je caricature, hein, n'est-ce pas? Mais Yitzhak, qui correspond donc au principe de la rigueur, lui est plutôt tout seul, il est solitaire, il prie, c'est la rigueur, il est lié à la rigueur, donc il n'accepte pas à tout le monde, il est limité, il est dans les limites, donc dans le din, puisque le din lui-même, la rigueur, insinue les limites, et automatiquement parce que lui, Yitzhak, Kovesh, il est attaché, il attache ses forces, il soumet ses forces à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas dans cette expansion, dans cet épanchement qui est le chesed de Avraham Avinu. Cette université d'Avraham, elle est propre à Avraham, non pas à son fils. Yitzhak est dans la rigueur. Il est dans le din. Il est lié aussi dans la Kabbalah à Shvirat HaKelim, dans la brisure aussi. Cette brisure qui correspond à l'impossibilité au vase, aux capacités, aux contenants de recevoir le tout, la totalité. Je ne sais pas donc de l'explication simple, si on peut l'appeler ainsi, de la Shvira, de la brisure. Donc, les limites, la rigueur, c'est le principe qui domine chez Yitzhak. Jacob, lui, nous disent les maîtres, relie et Avraham et Yitzhak, à savoir la droite et la gauche, la bonté et la rigueur. Et celui qui correspond à ce Dmout Adam, cette image de l'homme complet. Il n'est pas dans la rigueur seulement, il n'est pas seulement dans la loi, il n'est pas dans l'épanchement, dans le chesed, dans la bonté excessive. Eh bien, il contrôle ces deux principes, ces deux forces, il les unifie. Et c'est ça la beauté. Tiferet, le principe qu'on appelle Tiferet, qu'on peut traduire par la beauté puisqu'il correspond à la symétrie. Beauté veut dire symétrie, à savoir, il y a une égalité. L'œil droit est comme l'œil gauche, l'oreille droite ne dépasse pas l'oreille gauche, il y a une symétrie. La beauté, c'est lorsqu'il y a une symétrie. Quand il y a une symétrie, alors, cela reflète une beauté. Tiferet. Yaakov reflète cette beauté, cet équilibre. C'est pour ça que Tiferet est aussi attaché à la notion d'équilibre. Alors on a vu Avraham, Yitzhak et Yaakov dans les principes qu'on appelle encore une fois dans la Kabbalah Chesed, le principe de Chesed, de Gvura et Tiferet, bonté, rigueur et beauté ou équilibre. On va voir une notion maintenant, à mon avis, beaucoup plus aiguisé dans, en ce qui concerne Avraham Avinu. Avraham n'est pas seulement l'homme de chesed, de la compassion, celui qui accepte tout le monde selon son niveau, son degré, comme il est, comme il se trouve. Avraham aime tout le monde, même les gens de Sedom, il est leur avocat. Lorsque Dieu désire détruire, entre les guillemets, les sodomites, les gens de Sedom, eh bien Avraham vient chez Akadosh Baruch Hu et le dit, comment, pourquoi détruire ces hommes? Dieu lui explique et pour quelle raison. Donc il faut la rigueur aussi, il faut certaines limites dans le comportement, etc. Et on ne peut pas être dévergondé et atteindre cette extrémité que les gens de Sodome ont atteint. En tous les cas, même si c'est ainsi, si c'est la volonté de Dieu, on voit une confrontation entre Avraham et Dieu lui-même. Il faut savoir que les patriarches ne sont pas seulement des hommes qui viennent nous définir une éthique, mais ils viennent définir eux-mêmes des aspects de la divinité. À savoir, eux-mêmes, ils définissent Dieu. Chacun à sa manière, Avraham définit un comportement même de la divinité, dans la hanaga, dans la direction divine. Il y a un midrash concernant Vayahal Elohim, mais Avraham. Elohim, Dieu, s'élève ou quitte Avraham. Dieu quitte Avraham. On devrait dire plutôt, Avraham quitte Dieu. C'est comme Elohim et Avraham. C'est comme si Avraham était le support de Dieu. Effectivement, le Midrash dit, Ha'avot hen hen amerkava. Les patriarches sont eux-mêmes le chariot. Donc le chariot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, et David aussi, en vérité, il y a quatre extrémités, il y a quatre côtés dans ce chariot. Nous allons nous concentrer dans cette conférence surtout au patriarche eux-mêmes. Et après, on parlera, Béat Hachem, de Moïse, à Moshe, à Aaron et David. Yosef aussi, parce qu'il y en a sept en tout. Il y a sept bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Mais dans la Merkava, on va se suffire avec les quatre, puisque Moshe englobe, en vérité, et Avraham. Yaakov inclut et Moshe et Aaron. Moshe et Aaron sont les jambes de Yaakov et Yaakov inclut aussi Yosef, puisque c'est Tiferet. Tiferet inclut et Netzach et Odé. En d'autres termes, nous pouvons parler de quatre extrémités de cette Merkaba, de ce chariot. Donc il s'agit de Avraham, Yitzhak, Yaakov et de David. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont eux-mêmes le chariot. Le chariot, pour signifier la direction divine. Chez le Ramchal, la Merkava elle-même, quand on parle de Merkava, le chariot divin, qu'est-ce que c'est le chariot divin? Est-ce qu'en haut il y a un chariot? Non, le Ramchal explique cette métaphore, cette allégorie, que le chariot insinue l'idée de la dynamique dans l'histoire, la direction divine, comment Dieu dirige le monde. Donc Avraham, Isaac et Jacob, qui sont Hem, Hamerkava, les patriarches qui correspondent donc à la direction divine, au fait, eux-mêmes sont les principes de la direction divine. Eux-mêmes représentent et expriment la direction divine, chacun, bien sûr, selon son aspect. Abraham lui-même, donc nous allons parler de Chesed. Mais nous allons voir, en fait, plus que le Chesed, plus que la bonté, il y a une idée, je dirais, au niveau suprême, c'est-à-dire le chesed ontologique, le début du chesed, qu'est-ce qu'il était? L'origine de la bonté. La bonté, au fait, signifie cet épanchement, cet itpashtut. Pour le Ramchal, Avraham représente le cave du Ein Sof. Il représente ce rayon de l'infini. Ce rayon de l'infini, à savoir cette première dimension qui se révèle dans la création du monde. Mais en vérité, elle s'est révélée qu'après le Timtsum, qu'après les limites. C'est comme si Yitzhak, en vérité, précédait Avraham, puisque Yitzhak représente ses limites, représente la rigueur, représente le Réchimo, la première trace où, on va dire, Achalala Metzumtsam, l'espace primordial, puisque ce sont les limites de toute la création. Avraham, Yitzhak représente les limites, les lois de la nature. Il représente aussi la définition même de l'espace primordial. Mais Avraham, lui, il représente cet infini qui pénètre dans cet espace primordial. C'est-à-dire, au fait, c'est vrai que le monde peut être représenté par Yitzhak, par les lois, par les limites. Mais au fait, il n'a pas d'avenir. Le Midrash, ainsi que le Zohar, nous rapportent cette rencontre de Yitzhak avec Esav, son fils. Et avant de parler de cette rencontre, on parle de Vatichena, aîné Yitzhak, que les yeux d'Yitzhak se sont affaiblis. Il s'agit donc de la rigueur. Il s'agit de cette rigueur, il s'agit de cette force, de ses pleurs, de ses larmes, de ses dinim aussi, de ses rigueurs. Et voilà, il y a une shvira, il y a une brisure. Il y a une brisure au sein même du din. La rigueur toute seule ne peut pas permettre ce qu'on pourrait appeler la perpétuité du monde. Le monde ne veut pas se perpétuer que par la rigueur, même si, bien sûr, les limites pour nous sont importantes, et les limites pour le monde, pour l'univers, c'est la première révélation de Dieu. En vérité, dans la révélation, c'est d'abord la limite, c'est d'abord le din. C'est le din que nous avons étudié dans le Timtsum, c'est celui qui se révèle au début. Donc en vérité, Yitzhak devait d'abord être révélé avant que Avraham vienne. Nous allons voir que Avraham est arrivé avant Yitzhak, parce que Avraham précède Yitzhak, même au niveau métaphysique, c'est-à-dire, d'abord il y a l'infini, il y a ce rayon de l'infini. Mais au niveau de l'histoire, le rayon de l'infini se révèle après. C'est, en d'autres termes, il faut d'abord la nature, les lois de nature, l'espace primordial, et ensuite, il y a donc ce rayon. Je disais tout à l'heure, bien sûr, il faut les limites, il faut les lois, parce que les lois sont représentées par Yitzhak. C'est cette rigueur. Dans la création, il y a de l'eau. D'abord, Beruach Elokim et Rachef et Apenemaim, même si nous parlons de le monde et dans le chaos, dans l'âme, l'esprit divin plane sur les eaux. Donc avant même de parler de la création, et Dieu dit que la lumière soit, le texte parle déjà de l'eau. C'est possible que nous parlons que d'une manière symbolique, puisque votre création n'est pas, il n'y a pas encore de création, mais il y a une idée de la création, avant même la création. Et cette idée, d'abord, il y a de l'eau. Cette eau qui représente cet épanchement, ce chesed, parce que l'eau est définie par le chesed, par la bonté, comme Abraham Avinu. Yukachna me'at maim, prenez de l'eau. Prenez cette eau de l'origine, cette eau qui va nous nettoyer de la Vodazara, comme on a rapporté tout à l'heure, de cette idolâtrie, qui est, elle, liée à la rigueur. L'idolâtrie, elle, est liée à la rigueur. Et donc, il faut revenir à cet état d'épanchement premier de l'infini pour vous nettoyer de ces formes que vous êtes soumis. On voit que Abraham Avinu, qui est lié donc à cette eau, à cet épanchement, a besoin aussi de limites. La Torah dit, Ikavu amayim bemakom echad, veterae hayabasha. Le Zohar dit, c'est Yaakov. Je traduis, que les eaux soient rassemblées dans une seule place, afin que la terre puisse se dévoiler, être dévoilée. Donc pour dévoiler la terre, il faut limiter les eaux. Il faut que les eaux soient dans un mikvé, dans un bassin. Ikavu amayim bemakom echad. Que les eaux se rassemblent dans un bassin pour que la terre puisse se dévoiler. Parce que si les eaux remplissent toute la terre, eh bien, il n'y a pas de place de création au végétal, à l'animal, à quiconque. Donc pour pouvoir donner une place à la terre, il faut limiter les eaux. C'est là aussi le saut du Timtsum dont on a parlé. La limite, cette limite qui est liée au Timtsum. Donc il faut limiter les eaux, eh bien, il faut limiter l'infini pour qu'il y ait un espace limité. C'est comme si, je dis bien c'est comme si, hein, c'est pas exact ce que je viens de dire maintenant, mais c'est juste pour, comme disent nos maîtres, apaiser l'oreille. C'est-à-dire au fait, il y a une limite de l'infini, il n'y a pas cet épanchement pour qu'il y ait une place à l'autre. Pour que l'autre puisse exister, il faut que tu te limites. Je donne toujours cet exemple avec un feu de croisement. Il y a un feu rouge, il faut s'arrêter. Pourquoi? Pour laisser passer l'autre. Sinon, tu vas l'écraser ou il va t'écraser s'il est plus fort que toi. Donc, pour que l'autre puisse passer et être, tout simplement, alors il faut que tu limites. Il faut que tu limites ta force. Ainsi, on peut attribuer à l'infini cette expansion de l'infini, ce que la Rambam appelle la volonté, pour que il y ait autre, l'autre, pour que l'autre puisse exister, il faut cette rigueur. Donc, on voit que l'épanchement tout seul, le chesed tout seul, ce n'est pas valable, parce qu'il faut aussi la limite. On a vu donc l'épanchement, l'aitpashtout, ou le chesed, la bonté, et il y a aussi donc la limite. Cependant, il y a une discussion dans nos maîtres, qu'est-ce qui a précédé? Ratzak, Rou, Livro, Taolam, Bedin. Le Midrash nous dit que l'Éternel voulait créer le monde avec la rigueur, avec la limite. Et il a vu, Ra'a, il a vu qu'il n'y a pas de kiyum. Et là, on dit le contraire. On dit que Dieu veut créer le monde dans cette infinité donc de compassion et de bonté, mais voilà qu'il n'y a pas de réalisation réelle, et il faut donc la limite. En vérité, c'est ça que le Rambam explique dans le Rambam, que la notion, elle, de la limite, elle est liée à la Bina. La Bina du Ensof, à savoir ce discernement, cette rigueur aussi, cette intelligence, mais au niveau de la rigueur. Mais avant cela, il y a un état de la Chokhmah, d'une expansion, d'une volonté infinie. À savoir que les créatures soient aussi dans cette infinité. Dans ce cas-là, il n'y a plus de justice, puisqu'en fait, il faut les accepter tels qu'ils sont. Et c'est ce qu'Abraham est confronté. Est-ce qu'on fait justice ou on ne fait pas justice avec les gens de Sédom? C'est vrai qu'ils détruisent, qu'ils détériorent, mais est-ce qu'on va aller avec eux dans la rigueur? On voit que Dieu aussi, à un moment donné, avec le veau d'or, qui vient, donc il veut détruire le peuple d'Israël après le veau d'or. Et Moïse lui dit, Igdalna koach Adonai, que la force divine ou les forces divines qui soient dans cette expansion, qui grandissent, pour qu'ils puissent donner une place aussi à l'autre. Parce que lorsqu'on est limité, il n'y a pas de place à l'autre. Alors que Dieu grandisse. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de cette émanation de la divinité, de cette volonté divine qui maintenant elle gouverne et qui s'appelle maintenant la rigueur, alors qu'elle grandisse, pour qu'elle puisse laisser la place même à ces fauteurs qui ont fait donc le veau d'or. Et ainsi, ils ont aussi un espace plus grand. Ils peuvent donc se perpétuer et rester encore. Yitzhak tout seul, ce monde, avec Yitzhak, il n'y aura pas beaucoup de monde. Il y aura peut-être un minyan, une dizaine de personnes dans le kibbutz Hachlemim, comme dit le Rambam, dans ce rassemblement des hommes parfaits. Mais en vérité, Avraham Avinu l'a précédé pour justement être dans cette possibilité d'agrandir. Mais Avraham tout seul aussi, dans cette infinité, il n'y a pas de réalité. Donc la réalité est plutôt liée à Yitzhak. Mais en vérité, c'est faux. C'est Yaakov. Yaakov, lui, Titen Emet le Yaakov. Cette réalité, cette vérité, elle est plutôt identifiée à la beauté, à la Tiferet, à Yaakov. Et d'après le Ramchal, c'est ça le sens, le sod de Adam Kadmon. L'homme primordial. C'est quoi cet homme primordial? C'est l'union du Kav et du Réchimon, du rayon de l'infini avec la trace, avec l'espace primordial. Si on relie le rayon et la limite ou l'espace, alors, ou le corps, sinon on va l'appeler le corps et l'âme, l'âme correspondant à Avraham, donc l'infini, le corps, lui, c'est Yitzhak, c'est les limites, c'est les lois, il faut respecter les lois, sinon il n'y a plus de corps, mais en vérité, un corps sans âme, et une âme sans corps. Alors dans ce cas-là, il y a cette fusion, cette union, et d'après le Rambam, ce que le Ari HaKadosh explique, cette notion qu'on appelle le Adam Kadmon. C'est-à-dire, c'est quoi le Adam Kadmon? Si en vérité, c'est la première révélation. La première révélation, c'est ni le Kav, ni le Réchimou. C'est ni le rayon de l'infini, ni l'espace primordial. C'est la synthèse. C'est l'union de ces deux aspects de la création. C'est Avraham et Yitzhak. Mais en vérité, à quel moment il y a cette apparition, ou cette vision, ou cette réalisation du monde, c'est Yaakov? Parce que là, le monde commence réellement. Sans Yaakov, sans Jacob, il n'y a pas encore une réalité qu'on va dire définie par l'Éternel. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que Yaakov, c'est l'image même de Dieu dans la Merkava, dans le Kissé, dans le trône divin, il y a une effigie de Yaakov. Si on voyait le trône, alors on verrait donc Yaakov. Pour un peu diluer notre dracha, détendre un peu les anges quand ils sont montés. Et on dit, dans le rêve de Jacob, il y a une échelle, et ils montent et ils descendent. Alors ils montent en haut, ils voient Dieu, ils descendent en bas, ils voient Dieu. C'est Yaakov. Ah, c'est pas possible. En haut et en bas, en fait, ça nous rappelle un petit peu que les anges voulaient se prosterner devant Adam Arishon. Adam avant la faute, et bien c'était Jacob. Yaakov, lui, représente cette image de Adam avant le Etz Hadaat. C'est le Ishtam Yoshev Oalim, c'est l'homme pur, l'homme intègre, et qui est défini par cette tente de la Torah, cette union permanente avec Dieu. C'est une union. Comme dit le Rambam, il est animé par la racine, par la cause. C'est le Ruach HaKodesh, c'est l'esprit sacré. Il n'est pas animé par sa vision, par les yeux. Il est animé par son âme, mais c'est son corps qui est ce mouvement qui réalise justement les desseins de son âme. C'est l'union, c'est la synthèse de ces deux personnages, Avraham et Yitzhak. Donc Yaakov représente exactement le but ultime de l'homme, l'être en vérité que Dieu, que l'Éternel désire. C'est la raison pour laquelle c'est l'homme primordial et on peut le rattacher à cet homme qui est primordial. Mais d'après le Rambam, c'est quoi le Adam Kadmon? Le Adam Kadmon, c'est la direction divine de l'éternité. C'est, en fait, c'est l'homme idéal, l'homme qui va vivre éternellement dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Adam Kadmon représente pour le Rambam le Ramaba, la direction dans le monde à venir, pas dans ce monde-ci. Dans ce monde, la dualité, on trouvera très très peu de Jacob. Pour tout le monde, Jacob, c'est le traître. Oui, parce qu'il compromet, il est corrompu. Il n'est pas d'accord avec ce monde. Il définit autrement ce monde. Donc c'est un traître. Alors que Yaakov, pour nous, représente le Emet. C'est le contraire du traître. C'est la vérité. C'est la synthèse de ce ciel et de cette terre. Cette échelle qui relie le ciel et la terre. C'est Yaakov. C'est le Sinaï. Comme disent nos maîtres, Sulam, Sinaï, cette échelle, c'est le Sinaï. C'est la rencontre de Dieu et l'homme. L'homme et Dieu. Ceci dit que si Yaakov, lui, représente cet homme idéal, Ken, c'est le Adam Kadmon, c'est aussi l'union du corps et de l'âme. C'est la raison pour laquelle Yaakov l'omet. Pour nos maîtres, Jacob n'est pas mort. Jacob n'est pas mort, à savoir, il ne connaît pas la mort. La mort, à savoir, c'est celui qui a fait quelque chose dans ce monde, mais il a fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Jacob, lui, il arrache autant les étincelles du temps pour les transporter dans l'éternité. Il amène l'éternité dans la temporalité et il amène cette temporalité, il rend son acte temporel en un acte éternel, par la tfila, par la prière, par l'étude de la Torah, par la bonne action. À savoir, il est dans cette synthèse, il est déjà dans l'Olam Haba, il est déjà dans ce monde parfait, dans cette perfection, même dans ce monde. Mais voilà, Jacob n'a pas d'enfant. Jacob n'a pas de femme non plus. Pourquoi ? Parce qu'il est complet. À un moment, il faut être en vérité incomplet. Il faut être incomplet pour arriver à cette union. C'est la raison pour laquelle sa mère, elle le met dans une contradiction flagrante entre son corps et son âme. Il doit mentir. Il doit mentir à son père. Il doit aller en contradiction avec sa spiritualité, avec son divin, avec son Dieu. Et il va dire à son père, je suis Esav. Je suis Esav, je suis aussi le corps. Parce qu'à un moment donné, chez Jacob, bien sûr, c'est l'âme qui domine. Et le corps est complètement investi par l'âme. Et donc, il faut aller rencontrer cette dualité. Chez Laban. Laban, il va aller chez Laban, chez son oncle. Chez son oncle, il va retrouver donc cette confrontation avec la matérialité, avec ce monde. Il va se marier. Il va se marier deux fois. Il va se marier avec Léa et avec Rachel. Il va vivre la confrontation, la dualité pour après revenir et faire cette unification seulement à la fin de sa vie avec tous ses enfants. Et Jacob, lui, quand il doit mentir, Annie, Esav, je suis Esav, il dit à son père, alors que c'est un Jacob, et il dit Esav, et c'est là pour les goyim, pour voilà, c'est le traître, il est moins à son père, etc. Mais en fait, Jacob Avinu va aller utiliser ses peaux de chèvre, ses peaux de bête, pour aller se couvrir ses bras, il va les chasser, faire de la chasse. Non, il va cuisiner, il va s'occuper de ce monde matériel, matamim. Le plaisir de ce monde, les envies de ce monde. Et donc, il va s'occuper, on va dire, de son corps, il va s'occuper de ses bras, de ses mains, au fait de l'action. Il n'était pas dans l'action. Et donc, il va développer l'action par un acte de faire à manger à son père, de mentir, mais au fait d'élever ce monde matériel. Le Ramban Nachmani dit, pour quelle raison Yitzhak, le père, n'a pas voulu donner la bracha à son fils Yaakov? Pourquoi il n'invite pas son fils, l'homme pieux, de lui donner la bénédiction? Pourquoi il appelle le mécréant, il appelle Esav? Alors Yitzhak, lui, aimait Esav. Il est dans la nature, il connaît la nature, il aime cette nature. Et il veut donc parfaire cette nature, par la bracha qu'il veut donner à son fils. Il veut le parfaire, il veut l'élever. Celui qui a besoin de la bracha, de la terre, c'est pas Yaakov, il n'est pas dans la terre. Alors dit le Ramban, il a voulu donner la bénédiction du ciel à qui? À Jacob. Et il a voulu donner la bénédiction de la terre à son autre fils, Esav. Deux fils, une dualité, le ciel et la terre. Et voilà, le monde est partagé. Il y a des hommes qui s'occupent du ciel et d'autres qui s'occupent de la terre. Rivka, la mère, elle dit non. Jacob va épouser aussi les mains de Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, c'est la prière. Mais les mains sont les mains de Esav. Il faut que Esav et Jacob soient une personne. Il faut les unifier, les deux. Le Ramchal va plus loin en disant que lorsqu'Yitzhak a eu Jacob et Esav, les deux frères, le 7, en fait, ce sont les deux messies. C'est Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef s'identifie à Esav, puisqu'il est le maître de la terre, le maître de la guerre, de l'arme, des armes, des lois, de la rigueur, de la puissance. Et Jacob, lui, c'est Mashiach ben David, c'est le Messie fils de David. Et donc les deux, Mashiach ben David et Joseph, sont unifiés par une personne, c'est Jacob. Par Yosef, il aura donc à son tour Yosef et Yehuda, c'est-à-dire deux enfants de deux mères différentes, Vayou l'Ahadim Yadecha, comme nous avons déjà étudié, ils seront unifiés dans tes mains. Revenons à Jacob. Jacob, donc, lui-même doit apprendre à faire cette unification. Puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'unité. Il ne s'agit pas d'une personne, Il s'agit d'une double personnalité qui doit unifier les facettes de la rigueur, à savoir de l'espace, du corps et de l'âme, c'est-à-dire de cet épanchement. En vérité, le premier, là, on va... C'était l'introduction. Vous êtes prêts pour l'étude maintenant? Alors, il y a une étude dans le Hadiromarom sur... je vais résumer, je vais dire juste quelques mots sur la Akedat Yitzhak. La Akedat. On a maintenant Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak, je reprends, représentent les deux principes primordiaux. À savoir, c'est la rigueur et la bonté, ou plutôt... le corps et l'âme, ou plutôt la trace, c'est-à-dire l'espace en tant que trace, le réchimou et le cave et le rayon de l'infini. Alors écoutez, ce que va dire le Rambam, c'est quelque chose d'exceptionnel. Barakeda, Sham Niglam Mamash, là-bas, il y a une révélation réellement de Dieu. Parce qu'à présent, ce sont des aspects de la divinité. On a un aspect, on a Elohim, on a Shaddai, etc. Mais on ne peut pas dire l'essence, mais au fait, la révélation de Hachem, le nom, béni soit-il, va se révéler dans la Hakeda. Be'ar Adonai Irae. Dans la montagne sacrée, Dieu se révèle. Dans cette montagne où le Père attache le Fils, ligot son Fils. Au fait, il s'agit kiba akeda kvar shamata echakav okel tarishim utahtav venichnas bo vesham nigla l'Avram lemata inyan ha'yihud she'arich vezal kol inyan echad ki nishbati ne'um Adonai ukvar yadati ki kol nishba nishba b'mi shegadol mimenu. Au fait, alors Ramchal rend quelque chose de très très profond, des aspects de la divinité ou des modes, on va dire, de la relation de Dieu. Et une fois dans la Torah, d'après le Zohar, Rabbi Shmuel Ochai, il dit que le Hatik, à savoir l'ancien, qui est l'image, on va dire, réelle ou vraie de Dieu, se révèle. Une fois dans la Torah, dans la Hidra, Rabba est décrit, une fois dans toute la Torah, il y a une allusion claire de cet aspect du divin qui est le réel, qui s'appelle le Hatik, l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il décrit « Kinishba atineu madonna, je jure, dit l'Éternel, qu'est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à Moïse, à Abraham, pardon. Il dit, je jure. C'est quoi, je jure? Quelqu'un qui jure, dit le Zohar, Nishba ben Nafsho, celui qui jure, il jure sur quelqu'un qui est au-dessus de lui. Au-dessus de Dieu. Non, il s'agit en fait l'Éternel. C'est quoi l'Éternel? Atik. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le petit visage, on peut l'appeler ainsi, ou un aspect du divin qui s'est révélé jusqu'à présent, qui est au niveau de la loi, de la rigueur, etc., révèle un autre aspect ou l'aspect réel. Parce que tout ce qui s'est révélé jusqu'à présent, c'est des modes du divin, à savoir des modes de relation, comment il se relie ou se rattache à nous. Mais ce n'est pas l'aspect éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle Hachem, l'éternel. L'éternel, l'infini. Cet aspect de l'infini, il ne le connaît pas, Abraham. Enfin, il ne le connaît pas complètement. Dieu dit à Moïse, Vaïra el Abraham Isaac vel Yaakov vel Shaddai, Ushmi Adonai lo lodat ilahem. Je ne me suis pas révélé. Mais en fait, il dit le Zohar, une fois il s'est révélé à Abraham dans la Hakeda. C'est cet Avaya, ce nom puissant ou cet éternel s'est révélé une fois à Abraham dans cette Hakeda. Et pourquoi? Alors Abraham nous dit, parce qu'Abraham a attaché Yitzhak. Il a attaché les limites de la sensibilité, les limites, tuer son fils, c'est pas simple, hein. C'est ligoté, même ligoté, hein. et l'élever, bon, c'est beaucoup plus profond que cela, mais je m'arrête juste à cette notion donc de ligoté. Mais au fait, c'est le cave qui s'attache, le cave, le rayon, l'infini, qui s'attache à la limite. En d'autres termes, le or et le keli. Pour le Ramchal, la Hakeda, c'est le Soda Akodim. C'est-à-dire que cette Hakeda, la Hakeda veut dire attaché, mais veut dire les tâches, le monde des tâches. Mais c'est que signifie les tâches? De l'union. C'est là où s'attachent les points, où s'unissent les points, où s'unit le divin et la forme, la substance et la forme, à savoir l'âme et le corps. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui est très bizarre dans le corps, chez l'être humain. C'est cette clé de voûte, cette union entre deux aspects complètement opposés. qu'on appelle le or et le keli, la lumière et le vase, la lumière et le réceptacle, le rayon et la trace, l'espace et l'infini, etc., etc. Avraham et Yitzhak. Donc pour le Ramchal, Avraham et Yitzhak expriment bien la définition du monde maintenant. C'est-à-dire la volonté suprême de voir en un être humain et en même temps ce monde du maasé, de l'action, etc. Et en même temps ce monde divin de l'infini où il a besoin de rien du tout, où il n'y a pas d'action. L'action est terminée. C'est vrai que Dieu lui-même, pour agir, il a besoin de s'habiller dans Elohim, dans cette enveloppe, dans cette rigueur de la loi. C'est pour ça que la Torah Bereshit Bar Elohim, elle ne nous parle pas de Havaya, de Yudke Vavke. Elle nous parle de Elohim, de ce divin à la rigueur, Ken, de ce divin de la rigueur, de la loi. Sinon, il n'y a pas de monde, il n'y a pas ce Ikavu Amaim, il n'y a pas ce Gvoul, il n'y a pas cette limite que tu leur as assigné. Mais s'il n'y a que la limite, il y a aussi destruction. Et s'il n'y a que espace, il n'y a rien. Il y a pas, et s'il n'y a pas donc qu'expansion et épanchement, eh bien, il n'y a pas la réalité de l'autre. Parce qu'une grande lumière, comme le soleil, eh bien, il avale toutes les étoiles. Pour qu'il puisse avoir des étoiles. Aussi. Et donc, il fallait donc cette limite pour... comme le coucher du soleil, où le soleil, c'est pas qu'il n'est pas là, mais il ne se révèle pas là. À savoir, il n'épanche pas sa lumière vers cette place. Mais c'est à l'homme de ramener cette lumière, d'infini, de ramener ce Avraham, de ne pas être dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, dans les formes terrestres, qu'il aurait été Kol Temuna. Il n'y a aucune image. Donc c'est de se lever de l'image, mais nous sommes une image, et nous sommes attachés qu'à une image. Oui, mais le monde aussi n'est qu'une image. Et donc il faut arriver à cette réalité première du monde, cette lumière, ce qu'a fait Yaakov. Mais ça a commencé avec Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu avait besoin lui-même de Yitzhak. Et Avraham et Yitzhak, dans cette Akeda, s'unissent. Et c'est ce que Dieu a demandé. Dieu n'a pas demandé d'égorger Yitzhak, d'abattre ce monde, d'abattre le corps, d'attacher le corps seulement. Dieu dit... Il n'a pas dit une fois, tu es ton fils. Tu attacheras ton fils. Akeda, c'est tu attacheras, tu le ligoteras. Attacher le corps, maîtriser le corps par l'esprit, par la neshama. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a déjà, on a une idée de trois personnages. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a le Kav, le Rechimou et Adam Kadmon. Et Be'er Hashem, nous pouvons aller plus loin dans d'autres personnes. Donc la Torah, elle est venue, non pas seulement pour moi raconter une histoire, comme dit Rabbi Chaim Vital, dans l'introduction de ce grand livre, le Etzraim, que malheur à celui, en rapportant le Zohar bien sûr, malheur à celui qui croit ou qui dit que le livre de la Torah est un livre d'histoire. Même si c'est des belles histoires, il y a des histoires meilleures chez les nations. Comme ça dit Rabbi Hamital. Mais le but de la Torah n'est pas de raconter des histoires. Et même si, bien sûr, une éthique à apprendre de ces grands hommes. Mais plus que tout, il y a une autre idée qui est importante dans la Torah et qui est essentielle. C'est l'aspect ésotérique de la Torah, l'aspect métaphysique de la Torah. Et avant Yitzhak et Yaakov, si on les a rapportés avec leur histoire, c'est parce qu'ils expriment ce divin, ces aspects de la divinité, jusqu'à arriver à David, cet aspect féminin de Dieu, cet aspect de la Shrina, de la présence divine. Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est vrai, il y a un être humain. Il y a un être humain qui interpelle Dieu, mais qui ne vit pas la divinité, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de temple. David Ameler transforme sa personne en temple de Dieu. Son corps devient lui-même le temple. Bien sûr, lui méritera de construire le temple. Son fils méritera de construire le temple. Parce qu'il faut cet autre aspect. Et nous allons voir que Moshe, Moïse, Aaron et David, bien sûr, mais la conclusion, c'est David, parce que c'est lui qui va amener ce vecteur qui manque même à Yaakov. À savoir, cette réalisation de la divinité au sein de ce monde, de transformer ce monde, de le rendre comme le monde en, à savoir qu'il n'y a plus de dichotomie. Le monde comme il est, de l'élever, bien sûr, de l'épurer, de l'élever, jusqu'à devenir identique. Ce yichud se trouve pas dans David Améler. C'est ce que le Zohar appelle les Kudat Hatzot, c'est-à-dire ce minuit. On n'est ni dans la journée, ni dans la nuit. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de lumière. La fin des ténèbres, c'est déjà la lumière. La lumière, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est la lumière. C'est un moment où on ne peut plus distinguer. Ou plutôt, c'est un moment où tout s'unifie. Cette unification n'est pas le fruit ni de Jacob, ni même de Moshe Rabbeinu, et moins encore de Aaron. C'est seulement de David Améler qui lui amènera cette conclusion ou cet aboutissement de toute la réalité. C'est la raison pour laquelle David Améler, lui, il est ce Adam. Je terminerai avec ce passage du Tikkunim Chadashim. On le retrouve aussi dans une autre variante dans le Zohar. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David, tout cela, c'est Adam lui-même. Le Aleph de Adam, eh bien, c'est les trois patriarches. Il y a deux Yud, c'est la droite et la gauche. Dans le Aleph, il y a à droite et à gauche. C'est un Yud en haut, un Yud en bas, Avraham et Yitzhak. Et la barre du milieu, c'est Yaakov. Le Dalet, c'est le milieu, c'est David. Le même, c'est Moshe. C'est Moshe, mais c'est aussi Aaron, parce que Moshe a besoin de Aaron aussi, comme on le verra, pour transmettre. Il a besoin de cette transmission aux autres. Ça, c'est Aaron, c'est avec Aaron. Et enfin, Yosef et David, bien sûr, c'est les deux messies. David, c'est aussi Yosef. C'est aussi avec, il rentre aussi, il intègre avec lui cette force, ce principe qu'on appelle Yosef. Mais en tous les cas, tous ces. C'est cette personne, c'est cette géant correspondent en vérité à l'humain, à Adam. Adam Arishon, l'être que Akadosh Baruch Hu a créé à son image. Donc nous voyons donc notre Torah, Bereshit, le lieu de la Genèse, va se consacrer à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à savoir uniquement trois patriarches, c'est-à-dire la bonté, la rigueur et la beauté, c'est-à-dire Hesed Gvurat Ivret, mais aussi le Réchimou et le Kav. Adam, c'est d'abord arriver à Adam. Avant de donner la Torah, il faut d'abord être ce Adam, même incomplet, avant de venir Moïse pour nous amener cet état, ce qu'on appelle la révélation, il faut d'abord Adam. Le livre de Bereshit est appelé Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, c'est le livre de l'intègre, le livre de l'homme droit aussi. Mais ça nous rappelle Elohim Asa et Adam Yachar. Dieu a fait l'homme droit, intègre. Et donc Abraham et Yitzhak et Yaakov représentent cette intégrité. Mais c'est encore qu'un aspect de l'homme. Ceux qui vont s'arrêter à Bereshit peuvent être des grands humanistes, mais pas des métaphysiciens, et moins encore des hommes de Dieu. Il y a un niveau plus grand encore, c'est celui de Shemot, l'exil. Et ensuite, Moshe, qui le premier rédempteur qui va nous amener donc la révélation, la Torah. C'est cet aspect qui élève l'homme de la temporalité. Moshe Rabbeinu, celui qui nous amène à ce Harut, Alouchot, Herut, Imalachavet, la liberté. La liberté du temps. La liberté aussi de l'espace. Mais c'est seulement ceux qui ont atteint cette liberté qui peuvent vivre la révélation. Donc on avait besoin de Moshe Rabbeinu pour connaître encore cet autre aspect suprême de Dieu. Anochi Adonai Elohecha, Asher Otzitira, qui te fait sortir de l'esclavage, de l'Égypte. Et ensuite, avant, comme on verra, c'est le temple, c'est le service. Et après, c'est David qui conclura. Donc pour le moment, on va saisir uniquement juste ces trois aspects. La Merkava, le chariot n'est pas encore complet. Il y a juste trois pieds, il y a trois roues, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il nous manque David qui Yaakov, il nous manque encore certains aspects de Yaakov, encore Moshe, Aaron, Yosef, et c'est après seulement David. Voilà, si vous avez des questions, Brochim Tivou.